La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous. René Daumal avait prédit en 1930 dans sa lettre ouverte à André Breton qu'il lui fallait prendre garde à la postérité car celle-ci risquait bien de le conduire à figurer dans les manuels d'histoire littéraire alors que la seule postérité qu'il aurait souhaitée, c'était celle des cataclysmes. Aujourd'hui, évidemment, la prédiction s'est réalisée et Breton n'a pas réellement connu de purgatoire avant que l'université s'en empare. S'empare d'une œuvre qui constitue un jalon important pour l'art et la pensée du XXe siècle, c'est ce que nous allons voir ici jusqu'à jeudi. Nous le verrons d'abord demain avec Jacqueline Chaigneux-Gendron qui s'attachera à nous expliquer l'histoire du courant surréaliste dont Breton était à l'origine et qu'il a fait vivre tout au long de sa vie. Et puis mercredi, c'est de son rapport aux arts dont il sera question avec Étienne-Alain Hubert. Et enfin jeudi, nous nous concentrerons sur son livre Nadja avec Christiane Lacote-Détriba, puis avec Serge Filippini. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie d'André Breton, nous sommes en compagnie d'Henri Béard, professeur émérite de littérature à Paris 3, directeur du Centre de recherche sur le surréalisme. Il est notamment l'auteur de la biographie d'André Breton sous-titrée « Le Grand Indésirable », réédité chez Fayard, c'était en 2005. On lui doit également le dictionnaire André Breton aux éditions Classique Garnier en 2012 et puis plus récemment encore en 2017, la correspondance d'André Breton avec Tristan Tzara et Francis Picabia pour les années 1919-1924, c'est aux éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
André Breton était un honnête homme, et profondément honnête, avec ce que ça comporte, si vous voulez, d'insupportable. Un honnête homme, c'est un homme qui va jusqu'au bout de ses idées, qui ne transige pas. Eh bien, Breton est un peu comme ça. Il avait même un côté, un aspect de son caractère qui était curieux, c'est qu'il brûlait ce qu'il avait adoré et il adorait ce qu'il avait brûlé. C'est un peu peut-être la définition de l'honnête homme.
Philippe Soupeau, interrogé par Jean-François Noël, le 1er janvier 1967. Bonjour à vous, Henri Béard. Alors on vient de l'entendre, Breton était un homme intransigeant, un homme qui n'aimait pas beaucoup les biographies. Il n'aurait peut-être pas aimé l'idée qu'on se penche sur sa vie comme vous l'avez fait. C'était déjà il y a quelques années, hein, 1990, au moment de la parution de votre biographie.
Oui, ça fait du temps. Mais je pense que c'était nécessaire. D'abord, c'est une commande, il faut le dire tout simplement. Quelqu'un a éprouvé le besoin, je veux dire, un éditeur a éprouvé le besoin d'avoir une biographie d'André Breton. Et moi, j'ai essayé de souscrire à son contrat.
C'est quand même l'un des hommes les plus importants du XXe siècle.
D'une part, il manquait des données. Et puis, il y a aussi, surtout, qu'il est tellement caricaturé par des phrases convenues dont vous-même venez d'être l'auteur.
Quand vous dites, quelle a été
quand vous dites le pape du surréalisme, bon, moi, je ne suis pas religieux, ce n'est pas mon pape. Hein, pas du tout. C'est peut-être le vôtre.
Voilà, c'est le mien.
Moi, j'ai aucune religion pour Breton. Et je dirais même, c'est peut-être ce qui m'a conduit à dresser sa biographie. J'avais un principe très simple. Bon, on m'avait le contrat porté sur, il devait être chronologique, strictement chronologique, sans retour, sans anticipation ni retour arrière. J'ai essayé de d'y souscrire, et puis il fallait surtout pas de prise de position personnelle.
Voilà. Mais alors, raconter la vie d'André Breton, c'est pas évident, notamment quand on sait qu'il avait lui-même une attitude à l'égard de la vie très ambivalente. Est-ce qu'il aimait la vie, André Breton ?
Oui, mais il a eu une qualité, à mes yeux en tout cas, c'est que toute ce qu'il a écrit relevait de sa vie, et que moi je n'avais plus qu'à décoder les noms, à, disons, inscrire dans le texte les noms que lui-même avait employés.
Il aimait l'autobiographie.
Il était, et en plus il était très réaliste de, sur ce plan. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'il parle de sa rencontre avec Jacqueline, il parle d'un restaurant de l'avenue Rachel. Il nomme l'avenue Rachel, c'est pas moi qui l'invente. Il se trouve que c'est l'avenue qui mène à sa dernière demeure.
Cimetière des Batignolles.
Eh bien, si vous vous rendez sur ce plan, sur ce point, vous trouverez ce restaurant, il existe toujours, et vous lirez la description qu'il en donne, est tout à fait précise et encore pertinente, sauf que on a retiré l'horloge pneumatique de l'avenue Rachel. Mmh. Voilà un exemple concret.
Pour revenir sur le rapport à l'existence d'André Breton, lui, il parlait de la vie limitée, de la lenteur de la vie. Il parlait de l'ennui qu'il éprouvait très souvent.
Mais ça, c'est sa caractéristique psychologique. Je ne veux pas faire la psychologie à petite semaine, ce n'est pas ma compétence. Mais il est certain, et c'est d'ailleurs, il me semble, la raison pour laquelle sa famille a apprécié mon travail, c'est que j'ai rendu compte d'un Breton dans toute sa réalité, à la fois ses exaltations et puis l'ennui, son caractère un petit peu... Bon, déjà, je vais employer un mot inadmissible, il était cyclotimique. C'est-à-dire qu'il s'enthousiasmait pour des choses qu'il... d'ailleurs, Soupeau l'a évoqué dans la présentation, là, tout à l'heure. Il s'enthousiasme pour Dada. Et son enthousiasme a duré 3 mois, peut-être, pas plus. Et le reste du temps, c'était son devoir. Mmh. Alors, quand il s'était engagé sur quelque chose, il allait jusqu'au terme de l'engagement.
Alors, c'était un homme qui n'était pas un pape, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui avait une espèce de religiosité dans la morale. La morale, pour lui, était sans concession.
C'est son souci primordial du début à la fin de sa vie. Il a une morale et ses lectures favorites, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'était Pascal, c'était des gens de ce genre. Mmh. Quand il part à la guerre, il emporte 2 livres, dont Pascal. Moi, je pensais que c'était Rimbaud. Non, non, c'est Pascal aux deux guerres. Dans les 2 guerres qu'il a faites, il a été conscrit dans les 2 cas, eh bien, il avait toujours son Pascal dans son...
Et qu'est-ce que vous en concluez, alors?
Ben, qu'il aimait Pascal, et qu'il y était attaché, qu'on n'emporte pas ça dans son sac à dos pour les marches militaires si on n'y a pas un attachement profond.
Alors, vous disiez, Henri Bert, que vous aviez choisi de suivre un fil chronologique pour votre biographie de Breton. C'est ce qu'on va faire ici aussi. Il faut rappeler qu'il est né le 19 février 1896 à 10h du soir.
Oui, le 19, si vous permettez, je précise, le 19 et non pas le 18. Et parce qu'il s'est créé une petite légende lui-même, une petite mythologie personnelle.
Alors justement, j'allais y venir.
Ah, je suis désolé.
Un peu à l'image
J'anticipe.
Vous anticipez fort bien. À l'image de Maldoror, le personnage de L'autre amant, qui constitue une référence évidemment pour Breton, qu'il va faire remonter sa date de naissance du mercredi des cendres au mardi gras. Ça lui fait changer de signe aussi, parce qu'il était poisson et puis il devient Verseau. Alors pourquoi
et moi, j'ai,
Henri Béart?
Écoutez, ma théorie, elle n'est pas astrologique. Je laisse ça aux spécialistes. Pour moi, c'est une raison vitale, une raison biologique. Il se trouve qu'il a eu pour première maîtresse, et c'est même elle qui l'a dépucelé, sa cousine. Elle est née le 18 février.
Donc c'est un hommage.
Et comme par hasard, si on trouve dans les registres d'inscription à la faculté de médecine de Nantes, sa date de naissance à lui, 18 février. Et c'est la première fois qu'il utilise cette fausse date, puisqu'il sait très bien qu'il est né le 19, les papiers sont là, tous les papiers, et vous les trouvez même sur Internet aujourd'hui.
Mais l'astrologie, Henri Béart, c'était très important
pour... Ah, mais c'est aussi possible, oui, mais je prétends qu'il y a une autre raison tout à fait concrète, qu'il ne faut pas la négliger.
Alors son enfance, il ne l'a pas tellement évoquée, et pour cause, c'est sans doute des moments qu'il a préféré, au fond, oublier.
Pas tellement. Il l'a évoqué très... par rapport à la quantité d'écriture, de Breton, il a consacré beaucoup de pages à son enfance. Mais on ne le sait pas, on ne veut pas les voir. Elles se trouvent dans les champs magnétiques.
Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas les voir?
Bon, parce qu'on n'a pas étudié le texte. C'est trop difficile. C'est pénible d'étudier un texte, puis d'aller rechercher des références, etc. À quoi ça sert? Tout ça, c'est pénible. Mmh. On aime tant le lyrisme. C'est bien plus beau.
Il n'était pas lyrique, André Breton?
Non, il évoque, avec peut-être un certain lyrisme, mais très bref, son enfance, les choses qu'il a vécues magnifiques, les paysages. Et les...
Mais quand il dit, par exemple, qu'il a été massacré par le soin des dresseurs, c'est du lyrisme, ça?
Non, évidemment, mais c'est du biographique quand même.
Un peu les deux, quoi.
Il a quand même raconté sa vie quand il écrit ça. C'est, vous me donnez l'exemple type, justement, du réalisme de Breton. Mm-hmm. Il est surréaliste parce qu'il est, il a intégré d'autres choses dans les données du réalisme, puisqu'il veut ajouter autre chose. Il sait bien qu'on parle d'un quart de la vie des gens quand on parle d'une vie concrète. Et on ne parle pas de ses rêves, on ne parle pas de ses ambitions et tout ça. Et en voilà un exemple. Il a résumé sa scolarité comme ça, mais c'était pas tout. Pas uniquement cela.
Alors sa scolarité, puis aussi ses parents, sa mère, son père qui...
Non, la mère. Le père, il a adoré son père. On en a des preuves multiples. Son père a adoré le fils. Si, par exemple, on retrouve toutes les coupures de presse concernant les livres de Breton chez son père.
Mais tout de même, ça l'a fait hésiter plus tard à avoir lui-même des enfants, puisqu'il l'a dit que la pire folie, c'était de donner la vie. Alors finalement, il va donner la vie à une
fille
qui s'appelle Aube, d'ailleurs.
Il suffit de lire les lettres de Breton à Aube, qui ont été publiées récemment. C'est magnifique. Je dirais que c'est même le plus beau livre qu'on ait pu faire. De l'émotion, des émotions d'un père devant sa fille, et s'adressant à sa fille. Et ce qui est magnifique, c'est que la fille ait autorisé cette publication entre nous. Hein.
En tous les cas, c'est un petit peu comme si l'enfance et l'adolescence n'avaient pas vraiment existé, malgré tout ce qu'il en a dit. Nous expliquez-vous Henri Béart, parce que lui-même fait commencer sa vie en 1913, au sortir donc de l'adolescence. On écoute André Breton au micro d'André Parineau.
1913, bon, vous aviez donc 17 ans. Je crois qu'à cette époque, vous suiviez les cours du PCN, l'actuel PCB, vous destinant à la profession médicale, n'est-ce pas?
Oui, mais il faut bien reconnaître que c'est là pur et simple alibi. En vérité, pour moi, la sollicitation est ailleurs. Ma présence physique sur ces bancs d'amphithéâtre ou à ces tables de laboratoire est loin d'impliquer la même présence de l'esprit. Et pourtant, le démon qui me possède alors n'est aucunement le démon littéraire. Je ne brûle pas de l'envie d'écrire, de me faire, comme on dit, un nom dans les lettres. Je suis, à cet âge, l'objet d'un appel diffus. J'éprouve entre ces murs un appétit indistinct pour tout ce qui a lieu au dehors, là où je suis contraint de ne pas être, avec la grave arrière-pensée que c'est là, au hasard des rues, qu'est appelé à se jouer ce qui est vraiment relatif à moi, ce qui me concerne en propre, ce qui a profondément à faire avec mon destin. Ce n'est pas très facile à expliquer.
La compagnie des auteurs avec cet autoportrait du jeune André Breton qui se dépeint comme quelqu'un de curieux de tout, de ce qui se passe dans la rue, mais aussi Henri Béart de ce qui se fait en art, de la peinture contemporaine de son époque.
Oui, comme vous le savez, ces entretiens avec André Parineau ne ressemble pas du tout à ce que nous avons aujourd'hui. Ce sont des entretiens entièrement écrits
ça s'entend d'ailleurs.
Par André Breton, médités, profondément médités. C'est ce qui fait qu'il a éliminé les premières années et surtout, je dirais, qu'il a poser les questions lui-même.
Ça enlève un peu de spontanéité. Oui,
je me demande pourquoi c'est signé par Hinault, parce que les questions, nous le savons sur le manuscrit, elles sont écrites par Breton.
Bon, toujours est-il que donc en 1913, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'actualité artistique de son temps. C'est aussi un jeune homme qui noue des amitiés fortes, des amitiés qui vont compter, comme avec Theodor Frankel, qui rencontre en 1910.
Oui, au collège, ensemble... j'ai des amitiés de collège.
C'est
là,
ça, c'est des pas... amitiés de collège.
Je dirais que si nous connaissons Frankel, c'est parce que Breton nous l'a fait connaître.
Mais c'est donc avec lui quand même qu'il publie ses premiers poèmes.
Non.
Qu'il
non,
fonde le club non. des sophistes.
Non,
non, je n'ai pas lu ça dans votre biographie.
Je pense que ça fait partie du groupe d'amis qu'on a au lycée. Il y a eu beaucoup de... À l'époque, je me suis amusé d'ailleurs à recenser quelques cas semblables. Les élèves du collège, en particulier du collège Chaptal, faisaient constituer des petits groupes et publiaient des revues, des poèmes à leur façon. Le vrai... publicateur, c'était René Hilsum, qui est devenu par la suite, d'une part, un grand éditeur, et surtout l'éditeur du Parti communiste.
Alors justement, le Parti communiste, quel est le rapport avec la politique de ce jeune André Breton? Est-il anarchiste? Est-il socialiste? On sait qu'il va assister à des grandes manifestations organisées par la CGT et le Parti socialiste, justement dans cette fameuse année 1913.
Oui, eh bien... Il a la curiosité des jeunes de son époque. C'est une époque assez bousculée. N'oublions pas que la guerre se prépare, que la France prépare la guerre, particulièrement en proclamant, en publiant une loi qui allonge le service militaire d'un an. Alors, protestation, c'est la CGT.
C'est
la CGT qui prend la tête de cela, et le Parti communiste, bien entendu. Mais le Parti communiste n'existe pas à l'époque. C'est un parti socialiste unifié.
Alors, que fait-il pendant la guerre? Il est d'abord mobilisé dans l'artillerie. Il faut dire qu'il a fait des études de médecine, ce qui va du coup orienter son affectation.
Oui, mais il a été immédiatement, je dirais même, il a été enrégimenté un an avant l'âge où il aurait dû l'être. Et donc, il a été pris comme un troufion banal. Il a dû porter le sac. Ça ne le réjouissait pas particulièrement. Il s'est protesté un petit peu. Alors, il a demandé le soutien de Paul Valéry, qui avait quand même quelque influence dans le monde, dans la haute société, dirons-nous.
Et qui est une référence poétique pour André Breton.
Bien sûr, pour Breton, c'était capital. Mais il a surtout demandé cela à Valéry. C'est assez curieux, quand même. Alors qu'il avait dans sa famille, un oncle qui était directeur du personnel militaire, enfin des choses comme ça, c'était assez étrange, mais enfin, il a été versé comme élève infirmier, enfin militaire évidemment, à Nantes, ce qui lui plaisait bien sûr, puisque ça correspondait à sa région, de rêve, puisqu'il se croyait breton.
C'est aussi l'époque, il va le devenir un petit peu à force d'aller en Bretagne, c'est aussi l'époque où il rencontre Jacques Vacher, il faut dire un mot, je crois, sur cet ami qui
c'est important.
A été très important
lui-même,
pour lui.
Il a accordé beaucoup d'importance, plus que n'en a vraiment Jacques Vacher lui-même. On fait un monde de notre Jacques Vacher, on publie ses correspondances qui sont désolantes.
C'est un jeune homme, hein, quand
il
même.
Il faut voir ce que c'est. Quand il écrit à ses parents que c'est pas avec les troufions qu'il a sous ses ordres qu'on pourra gagner la guerre, enfin des phrases irrecevable. Mais enfin, Jacques Vacher est un héros de la littérature aujourd'hui. Passons. Pour Breton, c'est important parce qu'il a cassé ses rêves de poésie. Vacher lui a vraiment coupé la route à la poésie et l'a amené vers ce que vraiment est la voix de Breton, c'est-à-dire cette voix du quotidien, du réel qu'on va creuser et dont on va faire sortir d'autres choses.
En tout cas, il a dit un certain nombre de choses sur Jacques Vacher, dont des choses dans le texte qu'on va écouter maintenant, « Les pas perdus ».
C'est à Nantes, où au début de 1916, j'étais mobilisé comme interne provisoire au centre de neurologie, que je fis la connaissance de Jacques Vacher. Il se trouvait alors en traitement à l'hôpital de la rue du Bocage pour une blessure au mollet. D'un an plus âgé que moi, c'était un jeune homme aux cheveux roux, très élégant, qui avait suivi les cours de M. Luc-Olivier Merson à l'école des Beaux-Arts. Obligé de garder le lit, il s'occupait à dessiner et à peindre des séries de cartes postales pour lesquelles il inventait des légendes singulières. La mode masculine faisait presque tous les frais de son imagination. Il aimait ces figures glabres, ces attitudes hiératiques qu'on observe dans les bars. Chaque matin, il passait bien une heure à disposer une ou deux photographies, des godets, quelques violettes, sur une petite table à dessus de dentelle à portée de sa main. À cette époque, je composais des poèmes mallarméens. Je traversais un des moments les plus difficiles de ma vie. Je commençais à voir que je ne ferais pas ce que je voulais. La guerre durait. L'hôpital auxiliaire 103 bis retentissait des cris du médecin traitant, charmant homme par ailleurs. Dyspepsie connaît pas. Il y a deux maladies d'estomac, l'une certaine le cancer, l'autre douteuse d'ulcère. Foutez-lui deux portions de viande et de la salade, ça passera. Mon vieux, je vous ferai crever, etc. Jacques Vacher souriait.
Jacques Vacher, allez-y, oui, on l'a
très bien dit. Jacques Vacher est surréaliste en moi. C'est bien. Il l'a intégré. Et c'est comme ça qu'il en a fait un personnage remarquable.
Il en a fait un mythe aussi.
Oui, et le mythe de Vacher. Bon,
il faut dire qu'il est mort d'une overdose d'opium.
Alors,
nu, allongé à côté d'un garçon dans
Breton,
une chambre à Nantes.
Breton pensait, il a eu cette formule, Vacher lui aurait confié à un moment qu'il mourrait par une drôlerie superbe et une dernière fourberie, disait-il. Et Breton a toujours cru que Vacher n'était pas mort par accident.
Donc c'est un acte dada, finalement, cette mort de Vacher.
Pire que Dada, parce que Dada était pour la vie et pas pour la mort, hein. Ne pas confondre.
Il faut parler de Dada, alors, un petit peu, qui arrive après-guerre. Breton découvre ce mouvement au moment où il entre en relation avec Tristan Tzara, sur qui on peut imaginer d'ailleurs qu'il transfère une partie de l'affectivité qu'il avait placée sur Jacques Vacher, c'est en tous les cas ce que vous dites dans votre dictionnaire.
Vous n'imaginez pas, c'est lui qui le dit. Il a affirmé lui-même qu'il a transféré, ça coïncidait, les dates coïncident absolument. Il y a surtout que Breton a été littéralement enthousiasmé par le manifeste Dada 1918 que, au passage, André Gide portait sous le bras pour un petit peu choquer les gens de la NRF. Ça lui plaisait beaucoup, ça aussi.
Et pourtant, Breton n'aimait pas beaucoup Gide. Il l'a écrit,
non, mais au début... Non, attention, il faut relativiser, mettre des dates, c'est capital.
Oui, beaucoup plus tard, il a dit qu'il n'aimait pas beaucoup
début,
Gide.
Littérature, la revue Littérature s'ouvre sur des textes de... d'André Gide, ouais, et autres.
Donc littérature, justement, c'est cette époque-là, hein, 1919. Il fonde cette revue avec Soupeau,
avec Soupeau, oui.
Et Reverdy.
Le soutien de Reverdy. Oui.
Le soutien de Reverdy. Il y aura des enquêtes. Oui. Ça, c'est un peu une spécialité. C'est dont la fameuse enquête « Pourquoi écrivez-vous ?»
Le jeu dadaïs par excellence auquel il se livrait. Il y a une chose assez remarquable chez Breton, c'est qu'il n'aime pas rester seul. Ça fait partie du portrait psychologique dont on parlait au début. Alors, les jeux. Il a beaucoup cultivé les jeux jusqu'à la fin de sa vie, inventé de nouveaux jeux ou transformé des jeux collectifs. Et voilà, un jeu qui était à la fois amusant, divertissant et éloquent. Mettre une note, alors ce qui est aussi paradoxal de la part de gens qui refusent la scolarité ou qui dénigrent leur scolarité, mettre des notes aux personnages littéraires connu et inconnu. Bon, il y a aussi beaucoup de divertissement là-dedans, beaucoup de fantaisie. Il ne faut pas oublier que les notes de Tzara et Soupeau sont systématiquement les mêmes, c'est-à-dire moins 25 à tout le monde, ou quelque chose comme ça.
Alors, parallèlement, il y a évidemment l'écriture de poèmes. On n'a pas encore écouté un poème d'André Breton, je vous propose de le faire tout de suite. Il est lu par Jean-Bertrand Pontalis et il extrait du recueil de 1923, donc quelques années plus tard, le recueil Clair de terre.
Plutôt la vie, que ces prismes sans épaisseur, même si les couleurs sont plus pures, plutôt que cette heure toujours couverte, que ces terribles voitures de flammes froides, que ces pierres blêtes, plutôt ce cœur à cran d'arrêt, que cette mare aux murmures, et que cette étoffe blanche qui chante à la fois dans l'air et dans la terre, que cette bénédiction nuptiale qui joint mon front à celui de la vanité totale, plutôt la vie. Plutôt la vie, avec ses draps conjuratoires, ses cicatrices d'évasion, plutôt la vie, plutôt cette rosace sur ma tombe, la vie de la présence, rien que de la présence. Où une voix dit « Es-tu là ?» Où une autre répond « Es-tu là ?» Je n'y suis guère, hélas. Et pourtant, quand nous ferions le jeu de ce que nous faisons mourir, plutôt la vie.
Vous diriez que c'est un poème surréaliste, ça ?
Mais bien sûr, puisqu'il est de Breton.
Tout est surréaliste.
Breton est intégralement surréaliste pour lui-même. Mmh. Non, il faut bien comprendre que l'attachement à la vie de Breton est capital. Mmh. Il comprend les tentatives de suicide des uns et des autres. Il en a souffert, d'ailleurs.
Il a caressé cette idée.
Mais il l'a peut-être caressé, mais très peu, parce que vraiment, l'attachement à la vie, il le dit. Je ne sais pas si Pontalis a commenté cette lecture, mais en tout cas, c'est la parole franche, ouverte de Breton.
C'est l'inconscient qui parle quand il dit « plutôt la vie ».
Non, c'est le conscient, c'est évident. Une fois que c'est écrit, faut arrêter de croire que l'écriture est de l'inconscient.
Mais pourtant, le surréalisme et l'inconscient,
c'est synonyme pour Breton. On met au jour l'inconscient. C'est pas la même chose. Breton était persuadé, je l'indiquais tout à l'heure, que nous ignorons collectivement les trois quarts de notre existence, ou ça dépend de la durée de sommeil des uns et des autres, ou de la durée de rêverie, de rêve et tout ça. C'est cela qu'il faut explorer, faire connaître, mettre en évidence. Et justement, dès qu'on l'écrit, ça devient du réel, du tangible.
Mais au moment
sur quoi
de
on veut parler,
l'écriture,
on peut commenter.
C'est un inconscient qui se déverse sur le papier.
Mais il a mis lui-même, il a écrit, mais très peu finalement par rapport à l'ensemble de son œuvre. Il a écrit des rêves qu'il a lui-même essayé d'interpréter en s'opposant par là à Freud. Mm-hmm. Il voulait une auto-analyse, il était partisan de l'auto-analyse. Mais pourquoi ? Parce que pour lui, ça fait partie de sa propre vie. C'est à lui de la connaître, de connaître tout ce qui est dans le sommeil, dans l'obscurité. Donc, ramener au jour, et c'est pourquoi, donc, c'est toujours la vie. Le jour, c'est la vie.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi employer un terme qui est le terme de merveilleux, Henri Béart ?
C'est certain qu'il a été à la recherche du merveilleux, et c'est toujours dans la même optique. Ramener au quotidien, au présent, ce qu'on a pu avoir d'enthousiasme autrefois et d'avoir un peu négligé, méprisé, ou de ne pas l'avoir aperçu.
Le merveilleux est toujours dans le quotidien pour André Breton.
Ah oui, c'est ma lecture. Je sais que bon, je suis un effroyable réaliste, mais c'est ça, c'est présent dans son texte.
Et c'est présent aussi dans le premier manifeste surréaliste.
Bien sûr. Où il ouvre, justement, il ouvre la vie à tout cela.
Qu'est-ce qu'il dit dans ce manifeste ?
Ce premier manifeste est essentiellement centré sur ses propres expériences récentes. C'est donc l'exploration du rêve, l'exploration de l'inconscient. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu sa propre pratique médicale, si je puis dire. On ne peut pas tellement en parler parce que il n'a pas été breveté, si je puis dire. Mais quand il a été au centre neurologique de Saint-Dizier, il était auxiliaire en médecine, si vous voulez, et il a eu comme charge d'interroger par un médecin qui était très... Celui qui lui a confié cette tâche était un médecin très sérieux, très, très important dans l'histoire de la psychiatrie, le docteur Leroy, et celui-ci lui a confié d'interroger les patients qui avaient des troubles neurologiques. Et on sait aujourd'hui combien on a méprisé à l'époque tous ces troubles. Et surtout, il a eu cette tâche, Breton, qui était difficile pour lui. Il fallait dépister les truqueurs. Mm-hmm. Alors ça, c'était son truc. Et c'est son remords sur toute sa vie qu'on a utilisé ses propres rapports pour sanctionner ou pas certains de ses patients.
Et on en reparlera aussi demain dans le cadre de l'émission plus proprement consacrée aux surréalistes. Avant la chronique, un mot encore de politique, du rapport avec le PCF, qui cette fois existe. On est en 1927 quand il y adhère. En 1935, il quitte le Parti communiste français. Il faut dire qu'il s'est aussi brouillé avec Aragon, qui lui a donc pris fait et cause pour le parti. Ça s'est passé en 1932. Finalement, il est plus anarchiste que communiste. Et il est anticapitaliste.
C'est amusant, je viens de relire. J'ai relu hier une dédicace de Breton à Paul Vaillant-Couturier. Très amicale. Petite parenthèse, Breton est le premier qui, en France, dans la littérature française, a voulu concilier la poésie, la littérature et la politique. C'est en 1920, à la fin 1920, au moment du fameux congrès qui va voir la séparation des socialistes et des communistes, qu'il emmène son ami Aragon, bras dessous, au siège du PC pour y adhérer. Et en même temps, parallèlement, ils sont allés ensemble, tous les deux, et l'histoire est racontée par Aragon, ne manque pas de sel, parce qu'on leur a demandé de mouiller la chemise, et ils n'avaient pas du tout envie de mouiller la chemise avec ces gens-là. Voilà. Mais c'était une des premières tentatives de... C'est remarquable parce que ailleurs, on connaît la politique du futurisme, hélas, mais c'est bien plus tardif. Ils ont été les premiers à vouloir cela, et ils l'ont conduit très vite, la poésie, du côté du parti.
Donc,
d'où l'adhésion en 1927.
Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que Breton sera toujours un marxiste, un anticapitaliste. Oui. Il sera aussi proche de Trotsky, qu'il va rencontrer
à Mexico
en 1938.
Mais il n'est pas trotskiste. Attention, l'amitié, c'est une chose, et le parti est autre chose. Il n'a jamais adhéré au trotskisme. Mmh. Il a adhéré à Trotsky. Mmh. À la personnalité de Trotsky qu'il admirait parce qu'il avait été le chef de l'armée rouge, etc. Et puis il y a aussi le détachement qu'ils ont eu, surtout par rapport à Staline. Vraiment, la haine de Staline, l'antistalinisme est pur et intègre, il n'y a pas de doute.
Alors le spectre de la Seconde Guerre mondiale, on l'entend, s'approche déjà dans la vie de Breton. Ce que cette irruption va produire, nous en parlerons avec vous, Henri Béard, juste après la chronique d'Anne-Sophie Rouvelou.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Anne-Sophie Rouvelou de la revue Page des libraires. Bonjour à vous Anne-Sophie.
Bonjour Mathieu.
Alors vous venez régulièrement partager avec nous vos plaisirs de lecture et vous nous parlez aujourd'hui de trois ouvrages, à commencer par Une femme en contre-jour de Gaël Josse. C'est aux éditions Noir sur Blanc et ça raconte la vie de la photographe Viviane Maier.
Tout à fait, ouais, c'est elle, Une femme en contre-jour. Et en fait, on sait que c'est une photographe qui a été découverte tardivement et qui a vécu dans l'anonymat toute sa vie. Gaël Josse, elle va explorer son monde, dresser son portrait par petites touches et partager le peu d'informations qu'on a sur elle, parce qu'on sait qu'elle a des origines françaises, on sait qu'elle est née à New York en 1926, qu'elle est décédée à Chicago en 2009, et on sait que c'est dans cette ville qu'elle était nourrice d'une famille et qu'elle s'occupait de trois garçons. Mais à part son employeur, on ne sait pas vraiment qui était cette femme. Pour la découverte de son œuvre, donc ça elle en parle dans le livre, on sait que c'est en 2007 qu'il y a un agent immobilier qui va acheter plein de cartons remplis de négatifs, de pellicules, et donc il va s'amuser un petit peu à développer quelques clichés, il va les poster sur internet et il va avoir des réactions enthousiastes. Et c'est là qu'il va découvrir que en fait il tient peut-être quelque chose.
Les photos sont formidables.
Tout à fait, tout à fait, donc c'est comme ça qu'il va vraiment s'acharner et la faire connaître. Sachant que ce qui est passionnant dans ce roman et concernant cette femme, c'est que c'est vraiment une énigme, hein, comme je l'ai dit, et que si on veut essayer un petit peu de la connaître, c'est à travers ses photos qu'on peut deviner ce qui l'a touchée et qui elle était, parce qu'elle a fait plein de portraits de gens dans les rues de New York, dans les rues de Chicago, et elle a fait aussi des autoportraits. Donc après, c'est pareil, quel mystère quand même, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas développé ses photos, si c'était par manque de temps, par manque de moyens pécuniaires en fait. Et donc Gaëlle Josse, elle évoque ce personnage qui est à la fois solitaire, qui est complexe, et elle dresse vraiment un portrait qui est tout en sensibilité, délicatesse. Et pour connaître un peu l'écriture de Gaëlle Josse, j'ai un peu envie de dire que ce sujet fuyant, c'est un petit peu parfait pour elle, parce qu'elle nous laisse vraiment la place de réfléchir et d'essayer de deviner un peu qui était cette femme, ce qui aussi lui permet, ça elle l'évoque à la fin de son livre, d'avoir une démarche comme ça, où elle met un petit peu en parallèle son travail avec celui de Viviane Meyer, pour essayer de savoir ce qui, elle, pourquoi, qu'est-ce qui l'a fait écrire en fait.
Alors c'est aux éditions Noir sur Blanc. On poursuit avec un autre roman américain, ça s'appelle Heart Spring Mountain, et c'est publié chez Albin Michel, Les Femmes de Heart Spring Mountain.
Oui, tout à fait. Alors c'est le premier roman de Robin MacArthur qu'on connaît déjà pour un recueil de nouvelles donc qui était paru chez le même éditeur, qui s'appelle Le Cœur Sauvage. Et cette fois-ci, on part dans le Vermont en 2011, après le passage de la tempête Irène, où Vail, donc l'héroïne, venue tout droit de la Nouvelle-Orléans, va s'efforcer de retrouver Bonnie, qui est sa mère et qui est portée disparue. Donc bien sûr, vu qu'elle revient sur les lieux de son enfance, ça va être l'occasion pour Vail de se laisser un petit peu envahir comme ça par des souvenirs et de regarder encore une fois cet endroit où elle a grandi, qui est cette montagne, hein, Heart Spring Mountain. Et aussi, ce qui est génial dans ce roman, c'est qu'on a plein de courts chapitres et qui vont donner la parole à trois générations de femmes quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a la tante de Vail, il y a sa grand-tante, il y a sa grand-mère aussi. Et c'est comme une suite de petits bonds dans le temps et dans les âmes où on découvre des personnages qui sont super attachants parce qu'ils sont un peu cabossés, ils sont marginaux, ils sont un peu hippies aussi sur les bords. Et ils vont tous nous livrer un petit peu les secrets et les drames qui les relient, qui vont les séparer. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a effectivement le thème de l'appartenance à une terre, hein, avec des descriptions de nature qui sont vraiment fantastiques, et qu'on a aussi le thème d'une certaine porosité du présent, c'est-à-dire que si on s'intéresse un petit peu aux choses, on découvre que le passé est là aussi, qu'il y a aussi en germe des choses du futur. Et il y a une double quête pour l'héroïne, pour Vail. C'est la recherche d'une mère, mais c'est la recherche aussi de ses origines. Et il faut parler aussi de la langue de l'auteur, hein, qui est vraiment, qui est presque chamanique en fait, qui est vraiment chantante, qui nous emporte et qui est parfaite pour nous immerger dans cette nature et dans la puissance comme ça de ses familles et de la force des origines.
Et puis une BD pour terminer, Anne-Sophie Rouvelou, avec Peau de mille bêtes de Stéphane Fer, c'est chez Delcourt. On est toujours dans l'univers du conte qui constitue un peu sa veine habituelle.
Ouais, tout à fait. Alors la dernière fois, c'était le point de vue de Morgane, hein, tout simplement. Donc il était plus dans la légende arthurienne. Donc cette fois-ci, il part chez les frères Grimm, du coup, avec Peau d'âne. Et il va en donner une adaptation qui est absolument libre et absolument originale. On découvre, pour vous raconter très rapidement, on est avec la princesse Ronce qui est éloignée du château par le roi son père à la mort de sa mère, qui, lorsqu'elle aura grandi, va tomber amoureux d'elle. Donc ça, c'est la base de Peau d'âne. Sachant que dans la version de Stéphane Frey, il y a aussi une certaine noirceur, il y a une cruauté, mais il y a aussi de l'humour et des jeux de mots. Il y a un passage que moi j'ai adoré, c'est quand le père de Peau d'âne dit qu'il est insectueux. Mmh. Et ça arrive comme ça, d'une manière complètement fine et bien amenée. Et du coup, il respecte des codes, il les adapte pour créer un petit peu son univers qui, à la fois, c'est ça qui est très intéressant, qui est sombre, enfantin, mais qui est aussi très adulte parce qu'il y a beaucoup de sensualité. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les dessins des personnages, ils vont vraiment évoluer au fil de l'histoire. Par exemple, cette princesse Ronce, elle va être toute menue et fragile. Il y a des cases où elle va être une sorte d'ogresse, ou alors se transformer en femme qui est absolument magnifique et sensuelle. Donc il y a un côté comme ça aussi un petit peu onirique du conte, hein, on reste dans le conte, mais il y a un ancrage dans une réalité parce que les personnages, ils sont déçus de la compagnie des hommes, donc ils fuient un petit peu comme
ça. Donc c'est de la compagnie des hommes, ça va.
Oui, voilà, ouais, c'est pas celle des auteurs. Donc voilà, donc ils vont se réfugier un petit peu et rester un petit peu solitaires. Et il y a aussi cette princesse, hein, qui a un caractère très affirmé et qui se bat pour vivre selon ses propres règles.
Merci beaucoup Anne-Sophie Rouvelou de la librairie L'Écriture à Vaucresson, également de la revue Page des Libraires. Le prochain numéro paraît le 11 juin. À très bientôt.
Et toi qui marches, cette fleur des mains, tu oses me couper assez. Tu voulais tellement la garder pour toi que tu l'as mise dans une cloche en verre.
C'est une semaine consacrée à André Breton que nous vous proposons jusqu'à jeudi dans la compagnie des auteurs avec aujourd'hui Henri Béard qui nous raconte les grandes étapes de la vie du poète. André Breton qui était peut-être pour un certain nombre de personnes une sorte de gourou comme on l'entend en filigrane dans cette archive de la romancière, poétesse et égérie du groupe surréaliste Lise de Harmin.
Il a exercé une espèce de puissance, vous comprenez ? C'est un personnage qui avait une influence sur ses amis colossale. Et lui aimait les êtres jeunes. Il était entouré d'un groupe merveilleux de garçons jeunes, intelligents, charmants, qui vraiment avaient pour lui une adoration. Les yeux de Breton, le regard de Breton, c'était quelque chose d'absolument incomparable. Sa façon de parler. Moi, quand je parle de lui, je fais en ce moment attention parce que j'ai trop tendance en parlant de lui à parler comme lui, pas exprès, vous comprenez. Et quand il disait c'est une chose tout à fait intolérable, eh bien la chose était vraiment intolérable. Et si quelqu'un d'autre l'avait dit, on s'en foutait, mais lui ça comptait. Et tout était comme ça. Vraiment, notre vie était autour de la sienne.
Elle était rare, cette fleur. Attends,
la... L'entourage, la jeunesse autour d'André Breton.
Breton était aussi autour de Lise de Harmin, qu'il n'a jamais pu conquérir, mais qu'il a fréquenté longtemps. C'est amusant de retrouver ses archives.
Il en a conquis beaucoup d'autres.
Oui, bien sûr, mais là, pour Lise de Harmin, c'était vraiment son désespoir. Il y a toujours dans la vie de quelqu'un un désespoir quelque part. Et là, c'était Lise de Harmin, et Lise de Harmin. Il l'a aimé toute sa vie, quoi qu'il en soit, quels que fussent les incidents de leur liaison. Mais c'était son égérie, oui.
Alors reprenons notre fil chronologique, si vous le voulez bien. On a laissé Breton à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, il est mobilisé, il est affecté là aussi comme médecin à Poitiers.
Oui, alors là, il a été promu médecin, vraiment.
D'accord.
Mais... Bon, il ne l'était pas auparavant. Il a été aussi mobilisé en 38. Petit détail, au passage. Tout le monde n'a pas été mobilisé au moment de l'Anschluss, mais lui, il était. Voilà.
C'est de cette année-là aussi, 1939, que date son anthologie de l'humour noir. C'est vrai que les temps de guerre sont propices à l'humour noir.
Ça a été plus d'une année, la constitution de cette anthologie. Et c'est effectivement en 1939 qu'il commence à songer à la publier. Quoi.
Mmh. À la suite de l'armistice du 22 juin 40, il y a beaucoup de surréalistes qui vont aller en zone libre, en particulier à Marseille. Et depuis Marseille, Breton va réussir à s'embarquer avec sa femme et sa fille sur le bateau, le capitaine Paul Lemerle. C'est le premier bateau à quitter le port vers les Antilles françaises le 4 mars 1941. Et là s'ouvre une période tout de même.
Je ne crois pas que ce soit le premier, c'est plutôt le dernier. Son voyage a été financé et appuyé par Peggy Guggenheim, qui...
Grande mécène américaine.
C'est assez curieux parce que les Américains n'étaient pas en guerre à l'époque, donc Peggy Guggenheim était en France, elle constituait son musée et elle a aidé sa famille donc à rejoindre les États-Unis où là, il a essayé de survivre très mal, il était très mal à l'aise, en exil. Mmh. Il était vraiment exilé.
Donc il survit en faisant de la radio, justement.
Oui, c'était un emploi permanent, il avait un emploi, avec un engagement surtout, ne pas prendre position. Donc il était speaker. Mmh. Il n'a pas...
Pour Voice of America, à destination de la France.
De la France, et sur l'engagement de Paul Lazareff, mais il n'a pas émis une seule opinion sur la situation du moment dans ces émissions.
C'était, pourquoi il était ses opinions.
Ah non, c'était son engagement, il ne voulait pas. Quant à lui, il a été très brièvement du côté de De Gaulle. Il a publié un article ou deux, je crois, dans une revue gaulliste, et puis il s'en est détaché très vite, et après il est autonome, il a sa position, mais il n'est ni gaulliste, ni pro-américain. Évidemment, très critique sur tout ce qui se passe pendant cette guerre, mais il est partisan évidemment de la victoire, c'est évident, tellement qu'il appelle, ça, il donne comme titre de la revue surréaliste américaine Triple V. Pas VVV, pas VV simplement, mais Triple V. Donc il veut absolument une victoire. C'est évident, là il n'y a pas de doute. Il y a surtout qu'il n'est pas partisan des partis. Et quand il rentrera en France, il militera, comme certains aujourd'hui d'ailleurs, contre l'existence des partis, cette structuration de la liberté à travers les partis.
Alors quand même, même si l'exil new-yorkais est difficile, il l'est d'autant plus que sa femme va le quitter. Il y a heureusement beaucoup d'amis surréalistes, notamment Masson, Perret, Ernst et puis Duchamp.
Non, Perret est au Mexique à ce moment-là.
Ah, il est au Mexique,
c'est...
pardonnez-moi.
Breton.
Heureusement que vous êtes là, Henri Béard, parce que qu'est-ce qu'on dirait comme bêtise.
J'ai été payé pour ça, hein, j'ai appris moi aussi. Non, simplement, justement. Perret lui manquait, c'est sûr. Masson, ça l'a exalté à un moment, puis il y a eu des bagarres. Ça a continué un petit peu quand même. Son véritable soutien, c'était Duchamp.
Oui. Et sa grande amitié aussi.
L'amitié avec Duchamp, mais le soutien quotidien. Ils déjeunaient souvent ensemble. Et c'est d'ailleurs, il était avec Duchamp quand il a rencontré Elissa, sa future épouse, sa troisième épouse.
Je pense que lorsque Breton est revenu des États-Unis, ce fut avec une grande inquiétude. Il avait passé les années les pires de la guerre à New York et dans d'autres lieux des États-Unis ou du Canada. Il avait donc eu là une vie à l'abri des périls. Et pendant ce temps-là, d'autres membres du groupe surréaliste avaient pris de grands risques dans la résistance et ils craignaient sans doute qu'au retour, ils soient accusés d'être précisément celui qui n'avait pas pris part au véritable combat. D'autre part, il y avait eu aussi Antonin Artaud, qui, pendant ces années-là, avait traversé une expérience aux limites qui lui avait fait prendre également de très grands risques. Et Breton lui-même, qui n'avait aucune aptitude à la folie, si je puis dire, ressentait une sorte de... d'infériorité, de destin, devant un homme qui avait été si loin sur une certaine voie. Dans ces deux cas-là, il se croyait devoir être sur la défensive.
Le retour de New York après la guerre n'a pas été si simple, comme le disait Yves Bonnefoy à Mathieu Benezet en 1996. Quelle place Breton retrouve-t-il, Henri Béard, une fois rentré en France ?
Bien, oui, Bonnefoy évoque en particulier indirectement la querelle que Breton a eue avec Zara. Lors d'une conférence de Zara à la Sorbonne, il est intervenu pour défendre le surréalisme et Zara, qui avait quitté ce groupement, accusait le surréalisme d'avoir été en dehors du coup. Justement, ce surréaliste qui se voulait partisan, qui voulait s'engager politiquement, là, il était en dehors, puisque...
Il y a toujours eu un peu cette critique, parce que finalement,
oui,
le surréalisme...
Oui, concrètement, Breton était exilé, c'est vrai.
Sortir du réel.
Alors qu'il y avait René Char de l'autre côté, qui s'engageait dans la résistance, et puis il y avait des gens comme Zara qui étaient poursuivis pour chasser. Il faut voir aussi le côté difficile de l'existence de chacun en cette période.
Donc c'est un moment où le surréalisme est en perte de vitesse.
Il faut qu'il se reconstitue, il faut qu'il refasse son image, si je puis dire, puisqu'elle a été, et Bonnefoy l'a très bien vu, et c'est à ce moment-là que Bonnefoy constitue un groupe qui s'appelle Quatrième Convoi. Mm-hmm. C'est pas le premier, c'est pas...
Oui, parce qu'il y a toujours des jeunes, justement, il y a l'idée dans l'orbite de Breton, et il y a de nouveaux surréalistes qui arrivent.
Il y a des gens qui ont rejoint Breton, oui, bien sûr.
Alors, il y a qui? Il y a Grac?
Grac ne fait pas partie vraiment du groupe.
D'accord.
On peut le considérer comme surréaliste si on veut. Ça, c'est une question
on
de lecture.
On a le droit quand même.
Question de choix. Non, c'est une question de choix. Breton l'a considéré, a considéré l'œuvre de Grac en 38. Il lui a écrit en lui disant, c'est magnifique ce que vous faites. Et c'est là qu'il a essayé de l'attirer au groupe. Parce que une des ambitions de Breton, Lise de Harme le disait, bon, il aimait bien avoir la jeunesse autour de lui, l'avenir. Hein. Attention, ne nous apprenons pas, c'est pas Aragon. Hein. Il aime bien avoir l'avenir. Et Grac représente, d'une certaine manière, une tendance qu'il aurait aimé voir développer du surréalisme. Bon, il y a cette reconstitution du groupe qu'il recherche, très difficile, et comme je le disais, du côté du parti, il tient à ce que le groupe ait des opinions politiques, mais c'est le RDR, le Rassemblement démocratique de David Rousset, avec Camus et Sartre.
Alors, il faut dire aussi que les dernières années, les deux dernières décennies, disons, jusqu'en 1966, c'est l'année de la mort d'André Breton, sont des années qui vont être beaucoup portées sur la question des arts plastiques. Il va organiser des expositions, notamment.
Oui. Mais je voudrais parler quand même, un moment, si vous le permettez, de la révolution qu'on lui attribue.
Oui, allez-y.
Il aurait fait la révolution à Haïti. Il a séjourné à Haïti, il avait été invité par Pierre Mabille.
Il s'intéressait à l'art populaire haïtien, à l'art brut aussi.
Était, et il devait faire des conférences et il se trouve que sa venue a suscité un certain échauffement et surtout les jeunes d'une revue qui s'appelle La Ruche ont essayé de virer le dictateur en place Duvalier, qui a été ensuite remplacé par un autre dictateur évidemment. Alors on lui attribue la révolution d'Haïti et tout prouve que Breton lui-même le dit dans ses entretiens avec Parino, il n'y a pas pris part. Il a évidemment écrit l'éloge des jeunes, comme il le faisait, comme il devait le faire. Il n'y a pas pris part. Et c'est une affaire qui a été montée par les Américains où Breton a servi de prétexte. Et ceci nous est démontré dans les archives qu'il faut aller voir, évidemment. Des archives des affaires étrangères.
Mmh. Il a pris part, alors, puisqu'on était sur la question de l'engagement, parfois suspect de n'être pas suffisamment fort chez Breton, il a pris part au manifeste des 121, il l'aurait peut-être même coécrit.
Ah non, il a fait partie des rédacteurs, oui, oui. Il a été associé à la rédaction, c'est Maurice Blanchot qui a été l'initiateur, ce qui posait quelques petits problèmes compte tenu des origines politiques de Blanchot, et Breton a en quelque sorte l'a dédouané d'une certaine manière. Ça s'est passé chez lui, mais il n'a pas pris la tête de la chose, ça venait vraiment de notre groupe.
Alors André Breton meurt, je l'ai dit, en 1966, l'année d'un grand colloque sur le surréalisme à Cerisy-la-Salle. Il ne pourra pas y assister parce qu'il a déjà des problèmes pulmonaires. Il est enterré, on l'a dit, au cimetière des Batignolles. Il y avait beaucoup de monde à son enterrement, 1 000 000 de personnes.
Ah, moi j'ai lu 5 000. Mais j'étais...
C'est bizarre parce que j'ai lu ça dans votre biographie. Duchamp, Buñuel, Léris, Grac... Il y avait des gens importants quand même.
Il y avait beaucoup
mais il n'y avait pas Aragon, il n'y avait pas Dali, il n'y avait pas Picasso.
Bien sûr que non. Mm. Ben, il s'était fâché avec eux, c'est évident. Mm.
La maison d'André Breton, qui se trouve au 42 rue Fontaine, il a écrit cette phrase « Je cherche l'or du temps ». Est-ce que vous croyez qu'il l'a trouvé?
Je ne sais pas. En tout cas, il ne l'a pas écrit lui-même. Mais c'était... Ce qui est important, c'est la quête. C'est la quête, c'est la recherche. C'est lui qui a inventé cette formule de « je cherche l'or du temps ». Il dit « je suis un chercheur d'or, je cherche l'or du temps ». C'est un texte qu'il a écrit en 1924. Et je crois qu'il a consacré sa vie à cette quête. pour lui-même.
C'est quoi l'or du temps en deux mots?
Pour lui, c'est tout ce qui va briller, si je puis dire, dans son existence, dans sa vie quotidienne, dans sa vie permanente.
Merci beaucoup, Henri Béart. Je rappelle que votre biographie André Breton, le grand indésirable, a été rééditée par Fayard en 2005. Elle date de 1990. Vous êtes également l'auteur du plus récent dictionnaire André Breton chez Classique Garnier en 2012. C'était La Compagnie des auteurs, une émission proposée par Laurence Genepin, Laurence Millet, Garance Mazeli, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Jordan Fuentes. Notre série André Breton se poursuit demain. Ce sera avec Jacqueline Chaigneux-Gendron qui nous parlera de l'histoire du courant surréaliste. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver les lectures de poésie que nous propose, comme chaque jour, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Jean-Claude Pirotte, mort en 2014, a écrit toute sa vie, commençant par un recueil de poèmes à 23 ans, « Goût de cendre ». Il est natif de Namur, a vécu son enfance à Gembloux comme William Cliff et Jean-Pierre Verheyen. On sait qu'il vécut des années en cavale, accueilli en Bourgogne, en Haute-Marne et partout en Europe. « À joie » rassemble nombre de ses poèmes. « À joie, j'ai perdu mon coq ». Il était là-haut, sur le vieux clocher. Hier, je vais y voir, il était perché sur ma cheminée. Je lui dis, retourne, tourne d'où tu viens. Il me fait, eh oh, je suis pas ton chien. Son œil noir me toise, je prends mon échelle. Attends donc un peu, il glisse en gloussant sur le toit d'ardoise et me crie, va-t'en, confesser tes poules dans ta sacristie et compter tes œufs dans tous tes paniers. Dans ses poèmes où Pirotte s'explique sur son art poétique, que faire de la rime qui vient sans qu'on l'appelle rime fidèle, comme un chien perdu qu'on adopte en chemin parce qu'il l'a voulu, et que faire de lui sinon d'elle? On en a les reins moulus de fuir et jamais assez loin. Le chien gémit, la rime pleure, on a beau dire qu'il n'est pas l'heure. Des gémissements et des pleurs, on a beau dire, il faut nourrir les malheureux dans leur malheur, au risque de s'appauvrir, on finira par s'enrichir de souvenirs à la bonne heure. Et plus loin il dit, je n'écris pas comme je rêve, ce serait trop beau, je me lève et j'ai perdu déjà le mot qui devait guérir tous les maux. Je n'écris pas comme je pense qu'il faudrait retrouver l'enfance. Est-il trop tard, est-il trop tôt? Je suis un maître sans marteau. Si je veux que le soleil brille, c'est la pluie qui vient dans ma vie. Si j'attends que la pluie me charme, alors le soleil me désarme. Et je manque d'eau pour laver mes sales rimes dans l'évier. Sur mon fourneau, les vers recuits ne sont plus que lombriques réduits. Je n'écris pas comme j'écris. Voilà surtout qui me chagrine. Que ce soit le jour ou la nuit, je te vois fuir, ô poésine. C'est une autre cavale, voyez, celle du mot qui vous échappe. Qui que quoi donc où, voici le mois d'août, il a perdu son charme et sa chanson. La mort est passée, sombre inattendue, la vie était née, la voici perdue. La cloche qui sonne au clocher, personne encore ne sait qui l'a fait sonner. Le sonneur s'éveille, mais ce n'est pas l'heure, donc il se rendort sur ses deux oreilles. Et on peut lui trouver réponse, page 183. « Le soleil est en retard, dit l'homme au teint blafard, qui frappe aux portes, il dit, vous ne le verrez pas à midi. Les rares passants se hâtent, le chemin des bois est désert, les oiseaux ne vont nulle part et les taupes creusent la terre. On a fermé les fenêtres comme si c'était l'hiver, de l'homme blafard on entend la voix très loin, dans le vent. »
Jacques Bonafé, avec une semaine consacrée au poète, écrivain et peintre belge Jean-Claude Pirotte.